Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Oui, c'est des enfants dont je voudrais vous entretenir et vous raconter aussi comment j'accueille mes jeunes patients. Vous me verrez en action lors d'un premier entretien avec Agathe, une petite fille de 3 ans, puis avec Kevin, un garçon de 8 ans, qui m'a été adressé par son pédiatre pour des troubles du sommeil. Après mon récit, je répondrai comme d'habitude aux questions que m'ont posées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté ce podcast. Je vous rappelle que nos prochains épisodes sont disponibles en podcast. Vous pouvez les écouter, enregistrer vos questions, page L'Inconscient, sur franceinter.fr.
L'Inconscient, Dr Nasio, sur France Inter.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Oui, c'est des enfants dont je voudrais vous entretenir et vous raconter aussi comment j'accueille mes jeunes patients. Vous me verrez en action lors d'un premier entretien avec Agathe, une petite fille de 3 ans, puis avec Kevin, un garçon de 8 ans, qui m'a été adressé par son pédiatre pour des troubles du sommeil. Mais laissez-moi commencer en vous parlant de nos propres enfants. Quand je prononce cette expression « nos enfants », j'entends en moi la voix d'un poète, de l'immense poète que fut Khalil Gibran. Khalil Gibran est un écrivain libanais d'origine chrétienne du début du XXe siècle, devenu très célèbre grâce à son ouvrage « Le prophète ». Dans ce livre, Gibran imagine un sage qui répond avec simplicité aux questions sur la vie que lui posent ceux qui viennent à lui. Lorsqu'une femme qui tenait un bébé dans ses bras lui demanda « Maître, parle-nous des enfants ?» Le sage répondit « Nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie. Ils passent à travers nous, mais ils ne viennent pas de nous. Ils sont avec nous, mais ils ne nous appartiennent pas. Nous pouvons leur donner notre amour, mais non pas leur imposer nos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Nous pouvons nous efforcer d'être comme eux, mais n'essayons pas de les rendre comme nous. Car la vie, conclut le sage, ne va jamais en arrière. » Combien de paroles justes que je résumerai en une seule. L'enfant est une personne singulière, une force qui va, et non une possession figée de ses parents. Quand j'écoute les maximes de Gibran, elles me confortent dans l'idée que nous, les parents, nous avons deux tâches essentielles à accomplir. D'abord, essayer d'aimer notre enfant au plus près de ce qu'il est. Je dis essayer, parce qu'il est difficile, voire impossible, d'aimer notre enfant tel qu'il est. Pourquoi ? Parce que notre tendance est de l'aimer comme nous voudrions qu'il soit, comme nous rêvons qu'il soit. Quand on aime, on embellit forcément l'être que nous aimons. Il n'y a pas d'amour sans illusion. Et puis, notre deuxième tâche des parents, c'est de ne jamais perdre confiance en notre enfant. Il faut tenir bon. Quelles que soient les difficultés, croyez toujours en lui et dans son potentiel d'épanouissement. Nos enfants s'épanouissent dans la confiance. La, 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 la.
Tes enfants, disait un prophète à la mère qui l'écoutait. Tes enfants sont ceux de la terre, aucun d'eux ne t'appartiendra jamais.
Venons-en maintenant à la manière dont je reçois mes jeunes patients. Avant tout, quels sont les problèmes pour lesquels les parents et leurs enfants viennent me consulter? Pour les tout-petits, ce sont essentiellement les problèmes des cauchemars et l'agressivité. L'agressivité, surtout chez les garçons, lorsqu'ils mordent leurs camarades à la maternelle ou lorsqu'à la maison, ils sont violents avec leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Je n'oublie pas l'horrible récit d'une maman qui est venue me consulter à cause de la cruauté inouïe d'Alexandre, son fils aîné de 3 ans. Un jour, étant seule à la maison avec ses enfants, elle entend des hurlements venant de la chambre où dormait son bébé. Elle se précipite à l'étage et en poussant la porte, elle trouve Alexandre penché sur le berceau. Au moment où elle crie « Mais que se passe-t-il ?» Le petit garçon se retourne et elle voit effrayé sa bouche couverte de sang parce qu'il venait de mordre sa petite sœur dans le berceau. C'est une image terrifiante. Je ne peux pas vous raconter aujourd'hui l'histoire d'Alexandre, mais sachez qu'il a cessé d'agresser sa petite sœur après que je lui ai formellement interdit de mordre et que je lui ai demandé de mordre sa propre main pour qu'il sente que cela fait très mal. Revenons aux motifs des consultations les plus fréquents. Quand il s'agit d'enfants plus grands, les parents m'appellent pour des problèmes de timidité maladive, des difficultés à s'endormir, d'échecs scolaires, des neurésies et aussi pour des crises de colère. Parfois, des parents trop anxieux me consultent pour des motifs qui ne justifient pas une thérapie. Si je prends le cas fréquent du pipi au lit chez les tout-petits, il m'est arrivé de rassurer les parents en leur expliquant en présence de leur fils de 4 ans qu'à cet âge, l'incontinence d'urine est une régression à l'état de bébé en réaction, par exemple, à la naissance d'un petit frère. Mon explication non seulement apaise les parents, mais leur apprend qu'il existe des perturbations passagères chez un enfant sain et qu'il faut savoir patienter jusqu'à les voir disparaître spontanément. Hormis l'entretien destiné à rassurer et conseiller les parents, nous trouvons une autre modalité de consultation, la consultation unique, c'est-à-dire une consultation qui, à elle seule, peut produire un effet thérapeutique indiscutable. C'est une véritable cure psychanalytique condensée en une seule séance. Je pense ici à l'un des pères de la psychanalyse d'enfants, un pédiatre anglais, Donald Winnicott, aujourd'hui disparu, qui, en s'adressant aux professionnels avertis, leur recommandait de concentrer toutes leurs compétences, toute leur puissance thérapeutique en une seule rencontre avec l'enfant. Bien entendu, cette performance n'est réalisable que dans certains cas et avec un thérapeute chevronné, susceptible de dénouer le conflit en une seule rencontre. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec la petite Clara. Rappelez-vous notre épisode « Le bébé qui prenait soin de sa maman ». La thérapie de ce bébé déprimé n'a duré qu'une séance, parce qu'en une seule séance, j'ai réussi, sans l'avoir prémédité, c'est très important, sans l'avoir prémédité, à la soulager le bébé de la charge écrasante de devoir prendre soin de sa maman triste. Toujours en pensant au premier rendez-vous avec l'enfant, il arrive qu'à la fin de l'entretien, le petit patient ne veuille pas revenir. Dans ce cas, j'ai pour règle de ne jamais le forcer. Le contraindre serait une erreur, parce que commencer une thérapie sans qu'il en ait envie aboutirait à un échec. Enfin, quand je considère qu'un traitement analytique est nécessaire, je l'annonce à l'enfant et à ses parents à l'issue du premier ou du deuxième entretien. En général, je tiens à ce que le traitement soit de courte durée, de préférence moins de 6 mois.
L'inconscient avec le docteur Nazio.
Pour accueillir l'enfant, j'installe une petite table à roulettes qui est à sa hauteur. Il s'assied sur un tabouret et moi, en face de lui, je m'assieds sur mon fauteuil. Au cours de la séance, je me fixe 3 objectifs. Que l'enfant se livre facilement, que l'enfant ait confiance en moi et que l'enfant soit réceptif à mes interventions. Pour atteindre ces objectifs, je dispose d'instruments, je dirais, émotionnels et d'instruments concrets. Mes instruments émotionnels sont avant tout ma disponibilité envers l'enfant. Je suis entièrement à lui. L'autre instrument, c'est mon attitude chaleureuse. Je suis authentiquement content de le recevoir. Un autre, c'est ma faculté de concentration mentale. Je fais le vide en moi pour ressentir les émotions conscientes, mais aussi inconscientes de l'enfant. Et enfin, mon atout émotionnel le plus décisif est ma capacité de me dissocier. Je suis attentif à ce que me dit et fait l'enfant qui est devant moi, et en même temps, je n'oublie pas la souffrance profonde qui l'habite. Je vais vous en donner tout de suite un exemple en vous montrant comment je joue avec un petit patient en séance. Quant aux instruments concrets, je me sers du dessin, de la peinture, et si l'enfant a moins de 6 ans, j'utilise aussi de la pâte à modeler et différents objets hétéroclites contenus dans un panier. Parmi ces objets, je pense par exemple à 2 petites boîtes que l'enfant curieux aime toujours ouvrir pour y découvrir dans l'une des animaux miniatures et dans l'autre de très petits soldats de plomb. L'enfant trouvera aussi dans le panier un miroir des poches avec un couvercle métallique qu'à mon initiative, il aura plaisir à ouvrir et refermer en le faisant cliquer à côté de son oreille. Je vais l'apporter ici pour voir si vous l'entendez. Attendez. Souvent, pour obtenir sa complicité, je lui demande de s'approcher de moi et de faire cliquer le miroir tout près de mon oreille. À tour de rôle, en se penchant chacun au-dessus de la table, nous nous amusons à répéter les cliquetis. Mais attention, je ne joue pas avec l'enfant, même si ces moments sont agréables. Je cherche à établir entre lui et moi un espace de jeu grâce auquel l'enfant n'est plus sur la défensive. Quand je joue avec le tout petit, je me dissocie. Je suis à la fois celui qui partage la joie sincère de jouer, et en même temps, je descends en silence au plus profond de moi-même pour éprouver l'émotion douloureuse qui fait souffrir l'enfant. Je joue de bon cœur, mais je n'oublie pas la souffrance qui est toujours là, dissimulée derrière le jeu. Je voudrais ici vous faire part d'une singularité dans ma façon d'accueillir pour la première fois le petit patient. Je ne fais jamais entrer les parents avant d'avoir vu l'enfant tout seul. Je préfère le recevoir directement et c'est seulement après une vingtaine de minutes en tête-à-tête avec lui que je vais chercher ses parents à la salle d'attente. Mais pourquoi recevoir d'abord l'enfant seul, sans ses parents? Pour deux raisons. D'une part, parce que je voudrais que mon jeune patient sente d'emblée que c'est lui mon interlocuteur. D'autre part, je sais d'expérience que la première rencontre avec l'enfant et en général avec tout autre patient, la première rencontre est un moment précieux, où nous sommes saisis par la force incomparable de la première impression. L'impact initial est toujours le plus pénétrant et ineffaçable. À propos des premières fois, une question me poursuit depuis longtemps. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous si sensibles à la nouveauté ? Qu'y a-t-il dans le tout premier regard qui nous excite, nous angoisse et nous rend si perméables à l'autre? Je me dis que la fébrilité des commencements ne s'explique que par l'envie d'expérimenter des nouvelles sensations, suscitées par la présence vivante de l'autre. Chaque relation nouvelle est au fond une nouvelle naissance. C'est exactement cette impression de vivre une nouvelle naissance qui s'impose à moi chaque fois que je suis devant un patient que je ne connais pas encore. Rien n'est plus exaltant que la fraîcheur d'un premier entretien quand les patients s'avancent seuls vers l'inconnu et le thérapeute s'ouvre à l'inattendu. Chacun d'eux ramasse en lui son passé, s'unifie et s'offre tout entier au premier instant de la rencontre. Deux innocents scellent ainsi leur union. La candeur d'un patient qui se confie et la curiosité d'un analyste qui a tout à apprendre. Celui qui demande à être entendu, le patient, est aussi innocent que celui qui s'apprête à l'écouter, l'analyste. Vous comprenez maintenant pourquoi je préfère ignorer tout de l'enfant lorsque je les vois pour la première fois. Déjà, quand une mère me téléphone pour prendre rendez-vous, je ne m'enquiers jamais du motif de consultation. Par contre, j'attache la plus grande importance à ce contact téléphonique parce que il permet de préparer la rencontre initiale avec l'enfant. Après avoir fixé une date, je précise à la mère que lorsque le petit lui demandera pourquoi aller voir un docteur, elle devra dire spontanément ce que l'on pense. Je conseille aussi à la mère de préciser à son fils ou à sa fille qu'elle a appelé le docteur Nasio, tout en lui recommandant de prononcer clairement mon nom, afin que l'enfant le retienne. Je lui demande encore de rappeler à l'enfant la date du rendez-vous 2 ou 3 fois dans la semaine qui précède la consultation, en particulier la veille au soir. Vous imaginez bien qu'en m'adressant ainsi à la mère, je suscite sa confiance et indirectement celle du père et de l'enfant lui-même. Le seul fait qu'un psychanalyste donne par téléphone des directives aussi simples procure à la mère le sentiment rassurant que son enfant est d'ores et déjà pris en charge. Quant au petit patient, connaître le nom de l'analyste avant même de le rencontrer constitue une entrée directe dans la relation que nous allons établir. Pour un enfant, et pour tous les patients en général, le nom du praticien est fondamental. Je considère que l'attachement affectif au thérapeute passe d'emblée par l'impact du nom propre. Venons-en maintenant au premier rendez-vous avec Agathe, une petite fille de 4 ans. Je vais dans la salle d'attente, salue les parents, et m'adressant à l'enfant, je lui dis « Bonjour Agathe, entre !» Invariablement, les parents se lèvent pour l'accompagner, mais j'interviens aussitôt. « Un moment, je vous prie, je verrai Agathe d'abord. » Et vous recevrez ensuite. Devant mon invitation à entrer dans le bureau, l'enfant hésite, puis accepte timidement de me suivre. Une fois dans le bureau, sans fermer la porte, je lui montre la pièce où je travaille. Je lui montre la petite table où nous allons nous asseoir, le tabouret où elle prendra place et les 2 chaises préparées pour ses parents. Je dis même, voici, ici c'est la chaise pour maman, ici c'est la chaise pour papa. Avant de nous installer, je demande à Agathe, toujours hésitante, de refermer la porte derrière elle. C'est pas moi qui la ferme, je lui demande à elle de la fermer. Si elle la ferme, cela veut dire qu'elle n'a pas peur de rester avec moi dans la pièce. Ses gestes me montre déjà que ce n'est pas un enfant angoissé. Si en revanche, elle avait refusé de me suivre en restant dans la salle d'attente, comme font d'autres enfants, je l'aurais fait entrer accompagnée de ses parents, en sachant déjà qu'elle était une petite fille angoissée et surprotégée. En général, un enfant angoissé est un enfant surprotégé. Je vous expliquerai pourquoi dans un autre épisode. Mais revenons à l'intérieur du bureau. Agathe se dirige donc vers la petite table sur laquelle j'ai disposé les feuilles et le jouet. Je l'invite à s'asseoir et, ne sachant rien d'elle ni de son histoire, je lui demande « Connais-tu mon nom ?» Quelquefois, l'enfant fait « non » de la tête. Alors que j'ai demandé à la mère au téléphone de bien dire mon nom. Je me présente alors, je suis le docteur Nasio. Aussitôt, j'écris mon nom en capitale sur la feuille qu'elle a sous les yeux. Je sais qu'elle ne sait pas encore déchiffrer, mais ce n'est pas grave. je lui dis que j'écris docteur parce que je suis médecin. De même, je lui propose de m'écrire son propre nom ou de me le dessiner. Ensuite, je lui dis « Tu sais de quoi je m'occupe ?»« Je ne sais pas », me répond-elle intimidée. « Je reçois des enfants comme toi, parfois des plus grands, parfois des bébés, ou même des grandes personnes qui tous viennent me voir pour me raconter leurs soucis. Tu sais ce que c'est un souci ?» Souvent, les réponses sont étonnantes. Je me souviens d'un petit de 3 ans qui m'avait un jour tout bonnement répliqué « J'ai un rhume ». Et moi, amusé de le préciser en souriant que je n'étais pas un docteur de rhume, mais un docteur de soucis. Après avoir expliqué qu'un souci, c'est quand on pleure, quand on n'est pas content ou qu'on a peur, j'enchaîne. Et toi, Agathe, quel est ton souci? Pourquoi tu viens me voir? Parce que je ne suis pas sage, me dit-elle. Ah bon? Explique-moi, pourquoi tu n'es pas sage? Parce que je ne fais pas ce que maman me dit. Et à l'école? La maîtresse est fâchée et elle a parlé à maman. C'est ainsi que s'amorce habituellement l'échange avec un enfant. Quand Agathe m'a dit qu'elle n'était pas sage, j'ai compris tout de suite que le motif pour lequel les parents avaient décidé de me consulter était un problème fréquent à cet âge, celui de la désobéissance. L'enfant refuse de manger, de se coucher, de s'habiller, ou encore à l'école. Il refuse de suivre les consignes du maître ou de la maîtresse. Dans ce type de situation, où l'enfant n'a pas à être soigné comme s'il était malade, mon intervention se limite souvent à faire sentir aux parents combien je comprends leur exaspération et leur sentiment d'impuissance, et à leur expliquer, cependant, que la désobéissance de leur enfant de 4 ans, si pénible soit-elle, est le moyen qu'il a trouvé pour se sentir exister et conquérir son nouveau moi. À chaque refus, l'enfant est un peu plus lui-même. Je leur dis que pour que leur enfant respecte une consigne, ils doivent savoir ruser, le détourner de son entêtement dans le refus et éviter le face-à-face, éviter l'épreuve des forces. Mais ce dont les parents doivent avant tout s'apercevoir, c'est combien leur enfant attend d'eux qu'ils ne le considèrent plus comme un bébé.
Inter, l'inconscient, avec le docteur Nazio.
Maintenant, je vais vous présenter l'exemple de Kevin, un enfant tourmenté, celui-là, et vous montrer comment j'essaye de capter l'essentiel de sa souffrance dès le premier rendez-vous et donner d'ores et déjà une direction à la cure. Kevin est un garçon de 8 ans qui n'arrive pas à s'endormir. Lors de notre première rencontre, je lui demande s'il pense à des choses tristes quand il est au lit et qu'il ne dort pas. Il me dit que non, et à ces moments, à ma grande surprise, il fond en larmes. Je lui tends un Kleenex et après un court silence, je l'interroge. « Pourquoi tu pleures ? » parce que j'ai mal ici. » Curieusement, il me montre le creux de sa joue. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« C'est Marc et Karim qui m'ont tapé hier dans les toilettes. » Peu à peu, je découvre que Kevin, harcelé par des grands, terrorisé chaque matin à l'idée d'aller à l'école, est un enfant déprimé. En vérité, l'insomnie pour laquelle ses parents m'ont consulté est provoquée par le tourment de retrouver à l'école les méchants qui le battent. L'angoisse d'aller à l'école, qui dure maintenant depuis des jours et des nuits, a fini par le déprimer. Après ce dialogue poignant, et avant de faire entrer ses parents, je donne à Kevin mon avis avec beaucoup de tact. Sachez que je préfère toujours donner mon avis à l'enfant avant même d'entendre ses parents. C'est ainsi que je lui ai dit « Kevin, ton souci n'est pas que tu n'arrives pas à t'endormir. Le problème, c'est ta peur d'être battu par des garçons qui ne t'aiment pas. Et c'est ça qui te rend triste. Tout le monde a peur d'avoir mal. Mais ta peur, à toi, est trop forte. C'est pour ça que tu ne veux plus aller à l'école. Et puis, tu sais, quand la peur est trop forte, on finit par ne plus avoir envie de rien. Je pense, je continue à lui parler, je pense, et nous en parlerons avec tes parents, que la première chose à faire est de changer d'école. L'autre chose que je te propose, si tu es d'accord, c'est de venir me voir jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Et je poursuis en lui disant, « Maintenant, nous allons faire entrer ton père et ta mère et leur poser la question. Monsieur et madame, qu'est-ce qui vous a poussé à me téléphoner? Quel est le problème de Kevin ?» Nous allons voir ensemble, toi et moi, ce que tes parents vont nous répondre. Ainsi s'établit entre nous une complicité spontanée, car l'enfant et moi sommes devenus des alliés face à ce que le père et la mère vont dire. Je vais donc chercher les parents dans la salle d'attente et procède comme prévu. Toujours en présence de Kevin, je m'informe du motif de leur démarche. Ils répondent que le problème de leur fils, c'est sa difficulté à trouver le sommeil, doublé d'une excessive timidité qu'il avait déjà à l'école maternelle. Dans leurs propos n'apparaissent à aucun moment les causes de la souffrance de Kevin, à savoir la terreur d'être battu, l'angoisse d'aller à l'école, et la dévalorisation de soi-même. À la fin de l'entretien, toujours en présence de Kevin, je leur fais part de mon avis et nous convenons que je recevrai Kevin tous les mercredis. L'analyse de ces garçons s'est terminée positivement, bien qu'elle ait été plus longue que je ne l'avais imaginée. Le dialogue avec l'enfant n'a pas été toujours facile et nous avons dû avancer petit bout par petit bout. Le trait de caractère le plus difficile à traiter fut sa timidité maladive, datant de son enfance et ayant une résonance évidente avec la timidité de son papa, un homme très effacé. Ayant changé d'école et s'étant fait deux bons copains, Kevin a finalement retrouvé sa vitalité et son insouciance d'enfant. Avant de terminer notre récit, je voudrais vous dire un dernier mot sur l'enfant. Nous découvrons l'enfant d'abord en nous-mêmes. Il prend la figure de l'innocence, qui signifie la capacité de nous étonner. Être innocent, c'est avoir le plaisir de la surprise. Ensuite, nous découvrons l'enfant intérieur chez nos patients adultes, un enfant qui souffre et à qui nous redonnerons confiance dans la vie. Et enfin, nous découvrons l'enfant bien vivant qui est là, comme Agathe, comme Kevin, qui sont là devant nous et qui nous incitent toujours à avancer. Ne partez pas. Après avoir écouté une magnifique chanson de Camille, je vais répondre aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode en podcast, disponible sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas. Il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat. Très souvent, je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée à cappella. Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'Inconscient, avec le docteur Nasio.
Eh bien, maintenant, c'est à vous de me poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, merci beaucoup de nous avoir fait partager vos trucs et astuces pour l'accueil d'un tout jeune patient.
J'avais une question, je voulais savoir si vous mettiez en pratique également cette idée de Françoise Dolto de faire payer à l'enfant la consultation par un petit cadeau. Merci.
Merci de votre question. Avant tout, vous utilisez deux mots que je voudrais, avec beaucoup de respect, corriger. Truc et astuce. Je sais que vous l'avez dit de façon spontanée, mais beaucoup de personnes pensent que le travail que nous faisons avec les enfants, on utilise une technique. Et que la technique, ce sont des trucs et des astuces. Je sais cela, et vous n'êtes pas la seule. Des nombreuses personnes pensent que ce sont des astuces ou des trucs. Je voudrais vous dire que, même si on les appelle techniques, il ne faut pas oublier que la technique est tout à fait subordonnée à la personne du thérapeute. Que ce soit pour les patients adultes, qu'on dit une technique suivant une telle école, ou une technique suivant une telle autre école, ou pour les enfants, suivant telle ou telle modalité pratique d'approche avec l'enfant. Non. Ce qui compte, c'est vous. C'est votre envie d'aller vers l'enfant. Donc, c'est vrai que j'emploie des modalités, par exemple, recevoir l'enfant tout seul. Ou bien, par exemple, comme vous m'avez entendu dans le récit, de lui faire entendre le cliquetis du miroir qui se ferme. Eh bien, toutes ces modalités techniques, on dirait dans un langage plus approprié, tous ces trucs et astuces, on dirait dans un langage normal, quotidien, eh bien, tout ça n'est que destiné à que l'enfant se livre pour que l'enfant exprime et extériorise ses sentiments, ses envies. Ce n'est pas facile pour un enfant de dire ses sentiments. Et en particulier, je pense aux adolescents. Alors, je viens à votre question qui est intéressante. Oui, j'ai utilisé beaucoup à une époque le paiement symbolique. Je l'utilise moins. Mais de temps en temps, quand je sens que l'enfant ne sent pas l'importance de la science, à ce moment-là, je lui demande effectivement de m'apporter un petit caillou. Et s'ils sont des enfants un peu plus grands, par exemple des enfants de 8 ans ou de 9 ans, je leur demande de m'apporter un petit jouet de quand ils étaient enfants. C'est un paiement symbolique. La prochaine fois, tu apportes un petit jouet de quand tu étais enfant pour me dire « Oui, j'ai envie de venir. Oui, cette science compte pour moi. » Eh bien, tu me l'apportes, s'il te plaît.
Bonjour, docteur Nasio. Je voulais savoir à partir de quel âge un bébé peut comprendre ce qu'on peut lui partager comme information. Je pense à ça parce que j'ai du mal à considérer que une psychanalyste peut interagir avec un nourrisson, un bébé. Merci beaucoup.
Alors, votre question est très intéressante parce que elle me fait sentir l'importance d'être convaincu que nous avons à parler à l'autre. Et quand vous parlez à un bébé et vous êtes concentré dans ce que vous dites et vous sentez qu'il vous entend, cette parole est une parole qui porte et reçue par le bébé, même si le bébé ne comprend rien. Donc, je reconnais, c'est nouveau. Cela ne s'est passé pas il y a 60 ans. Mais depuis 60 ans, on a compris qu'un bébé comprend l'essentiel de ce que vous lui dites. Le ton, les fonds du message, si vous parlez avec conviction et si vous sentez qu'il comprend, qu'il est votre interlocuteur. Donc oui, on peut parler à un bébé et le bébé comprend. Que vous soyez un papa ou que vous soyez un thérapeute.
Bonjour, merci pour votre émission. J'ai remarqué autour de moi que beaucoup d'enfants étaient psychiatrisés très tôt. Bien sûr, il y a des cas qui le nécessitent, mais il y a aussi des cas où, peut-être par excès de bonne volonté, l'enfant se retrouve dans un circuit où il va être stigmatisé. Comment, en tant que thérapeute, déterminez-vous le nécessaire du superficiel, l'important du stigmatisant, justement, puisqu'on sait que l'enfant se construit par rapport à ce qu'on dit de lui. Merci.
Merci Célia, vous faites bien de me poser cette question. Elle me permet de souligner deux remarques fondamentales. Première remarque, la tendance chez nous, thérapeutes, doit être de ne pas s'occuper psychologiquement d'un enfant. Ça, c'est la première chose. C'est ça qui m'anime à la base. Je préfère faire tout le possible pour ne pas engager une cure d'enfant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas à entrer dans la vie de l'enfant, et surtout dans la relation de l'enfant avec sa famille. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que, attention, bien sûr, il y a des situations qui sont très importantes, parfois graves, et qui exigent de nous, professionnels de santé mentale des petits-enfants, exigent de nous que nous nous occupions. Eh bien, un professionnel qui a de l'expérience, il sait parfaitement lorsqu'il faut, oui ou non, s'occuper de l'enfant et engager une cure. Troisième remarque, c'est le problème des parents. Parfois, nous recevons un enfant, la problématique de l'enfant en tant que tel, en tant qu'individu, n'est pas si grave, mais la relation avec ses parents et le souci des parents est trop important. Donc à ces moments-là, il faut s'occuper de l'enfant et des parents. Souvent, je conseille aux professionnels plus jeunes, et je me conseille à moi-même, de recevoir et l'enfant et la mère, par exemple, ensemble. Je n'exclus pas cette modalité de travail. Je voudrais préciser que systématiquement, lorsque je reçois un enfant lors des dernières minutes, je fais entrer le parent qui est dans la salle d'attente et nous concluons la séance tous les trois. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on s'occupe d'un enfant, on s'occupe aussi des parents.
France Inter, l'inconscient, avec le docteur Nasio.
Et nous poursuivons avec les questions que vous m'avez laissées.
Bonjour, il y a une phrase dans votre récit qui m'a interpellée. L'enfant n'est pas une possession figée de ses parents. Alors, ça fait écho à une autre phrase que j'avais lue peu de temps avant. Le parent qui ressent des sentiments extrêmement puissants envers son enfant, qu'il perçoit comme une façon de se remplir et de s'apaiser. Le parent confond cette faim insatiable avec l'amour véritable pour une personne séparée de soi. Alors je voulais savoir comment faire pour que ces parents, qui sont convaincus d'aimer, se rendent compte que c'est peut-être pas ça l'amour d'un parent. Merci.
Vous touchez une question tellement universelle qu'est la question de l'amour des parents pour leurs enfants. Je serai très simple. Il faut aimer nos enfants. Même pas il faut. On aime nos enfants. On les aime infiniment. Mais attention, grâce à vous, je peux répondre. Mais attention, quelquefois, nous sommes parfaitement conscients qu'on va trop loin dans l'amour pour cet enfant. C'est-à-dire que le parent sent que l'enfant vient le consoler de quelque chose. Et qu'il y a comme une sorte d'appel à l'enfant, non pas en tant qu'enfant, mais en tant que, je dirais, qu'être qui nous console. Mais nous ne devons pas aller trop au-delà de cet amour qui se transforme en un amour abusif. Parfois, c'est abusif dans la manière de rapprocher l'enfant de nous. Et parfois est abusif, et ça je le vois malheureusement, dans la sensualité. Freud parle d'une expression que j'aime beaucoup, une tendresse nocive, une tendresse toxique. Caressez votre enfant et vous allez sentir dans la main si c'est une caresse tendre ou si c'est une caresse un peu sensuelle. Je dirais, ne caressez pas sensuellement votre enfant.
Bonjour docteur, je suis Delphine, j'habite Boulogne. Je vous pose une question. Vous avez dit dans votre dernier podcast qu'un enfant angoissé était souvent surprotégé et je voulais en savoir un peu plus. Merci.
C'est très important votre question Delphine, elle concerne des enfants angoissés. Ce sont des enfants en général entre 3 et 6 ans. Et comme je l'ai dit, c'est l'un des motifs de consultation le plus fréquent. C'est l'angoisse de l'enfant, la peur de l'enfant. Ce sont des enfants qui se collent aux parents, qui ont du mal à aller à l'école, qui ont du mal à aller, par exemple, à la maison d'un petit camarade. Enfin, cette idée de l'angoisse, c'est que plus il y a surprotection, plus les parents ne permettent pas que l'enfant affronte les difficultés inhérentes à la vie normale. L'enfant est avec un sentiment de se sentir entouré par sa mère. Du coup, quand il doit être ailleurs que dans son cercle familial, cet enfant a peur. Il n'a pas les moyens psychiques pour pouvoir affronter les difficultés qui se présentent.
Bonjour docteur Nazio, je m'appelle Carole, je suis psychanalyste. Je voudrais savoir si, lorsque vous menez une thérapie d'enfant, il y a des choses que vous considérez être confidentielles et que l'enfant ne devrait pas entendre et que vous confiez aux parents en l'absence de l'enfant. Merci, au revoir.
En général, je préfère toujours, que ce soit vis-à-vis de l'enfant, que ce soit vis-à-vis de la famille, que tout ce qui se dit soit connu, soit transmis. Et même, il m'arrive que je suis avec un enfant en séance, la mère avait téléphoné anxieuse pour une raison ou une autre, et la mère au téléphone, je lui dis « Madame, je vous précise que lorsque je serai avec Richard, je vais lui dire que vous m'avez téléphoné. »« Non, docteur, s'il vous plaît, c'est pas nécessaire. » Je dis « Madame, c'est une règle que je me donne, il faut que Richard ait confiance en moi et il comprendra parfaitement que vous avez téléphoné parce que vous étiez inquiète. » Voilà. Donc, mon attitude de base, et c'est celle que je suggère puisque vous êtes professionnel et vous m'appelez, je dirais l'attitude de base, c'est que tout le monde soit au courant de tout. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir un thème qui m'est cher, celui du premier rendez-vous de l'enfant avec son psychanalyste. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Éric Boissé à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr où vous pourrez découvrir nos prochains épisodes en podcast. Si ces podcasts vous inspirent, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques et vos questions. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.